C'est le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Une gendarme de 26 ans tuée hier soir lors d'un contrôle routier. Ça s'est passé dans le Lot-et-Garonne. Émotion au sein de la gendarmerie. Les détails dans ce journal. Scénario rocambolesque hier également à Vitry-sur-Seine. Au moment d'élire le maire, la tête de la liste communiste vainqueur des élections a été détrônée lors du conseil municipal. Un scénario rarissime. Et puis nous vous irons aussi aux États-Unis où l'on a célébré un 4 juillet particulier cette année entre le coronavirus et les tensions raciales. Et puis avec 2 semaines de retard, la célèbre fête des Tuileries a commencé hier. Soulagement pour les forains privés d'activité pendant 3 mois.
Et vous l'évoquiez, les États-Unis qui sombrent dans l'épidémie de Covid avec toujours plus de malades, de victimes. On en parlera avec un expert de l'OMS, l'infectiologue Didier Pitté, en direct de Genève à 7h50.
France Inter.
Une gendarme de 26 ans tuée donc hier dans le Lot-et-Garonne, Raphaël.
Ça s'est passé à une vingtaine de kilomètres d'Agen, à Port-Sainte-Marie exactement, lors d'un contrôle routier. Un chauffeur a refusé d'obtempérer. Les détails avec Marine Eugénie.
Il est environ 21h30 quand la jeune femme est percutée par un véhicule. Après un refus d'obtempérer, le conducteur est très rapidement interpellé. Il est actuellement en garde à vue à la gendarmerie d'Agen. Selon la dépêche du Midi, la gendarme de 26 ans aurait eu la jambe arrachée avant de faire un arrêt cardiaque. Elle faisait partie de la brigade d'Aiguillon, une commune toute proche. Ses collègues font part de leur profonde émotion sur la page Facebook de la gendarmerie du Lot-et-Garonne. Ils se disent meurtris par le décès en service d'une camarade. La gendarmerie du Lot-et-Garonne qui précise qu'elle ne fera aucun commentaire sur l'enquête et les investigations en cours. L'an dernier, 6 gendarmes sont morts en service en France.
Marine Eugénie, l'annonce du futur gouvernement, c'est pour très bientôt, à en croire en tout cas cette source au sein de l'exécutif. L'équipe de Jean Castex est prête. Reste donc à savoir qui la compose et surtout quand l'annonce interviendra sur le perron de l'Élysée, comme le veut la tradition. Ça, en revanche, on le sait et il n'y a pas de suspense. Élection du maire au Havre ce matin, le désormais ex-premier ministre Édouard Philippe va être élu. Il est totalement exclu d'avoir du suspense au Havre et un scénario comme celui d'hier à Vitry-sur-Seine, également incroyable conseil municipal d'installation au cours duquel le maire sortant, pourtant arrivé en tête lors des municipales la semaine dernière, a été détrôné. Il s'appelle Jean-Claude Kennedy, il est communiste et a été trahi par l'un de ses colistiers. Le récit de ce putsch par Faustine Moheran.
L'élu communiste avait obtenu quasiment 50% des votes dimanche dernier au second tour des municipales. Il l'a emporté largement. Sauf que ce ne sera pas lui le maire. Pour les 6 prochaines années, la plus grande ville du Val-de-Marne sera finalement dirigée par un des colistiers de Jean-Claude Kennedy qui s'est présenté contre lui en dernière minute et après avoir demandé un vote à bulletin secret. Pierre Belloc, 42 ans, veut faire place aux jeunes. Nous souhaitons un renouvellement de la jeunesse. Ça nous a été refusé, se justifie le quadragénaire. Il affirme avoir tenté de convaincre le maire sortant de repenser son équipe jusque tard dans la soirée, en vain. Il a donc obtenu 27 votes de conseillers municipaux contre 11 seulement pour Jean-Claude Kennedy qui crie au putsch. Les électeurs se retrouvent avec un maire qu'ils n'ont pas choisi. Les vitriots et vitriotes sont floués, écrit-il sur sa page Facebook.
Le récit de Faustine Moheran.
À 7h33, la suite du journal. Aux États-Unis, le 4 juillet ne ressemblait à aucun autre cette année.
Entre l'épidémie de coronavirus galopante, plus de 43 000 nouveaux cas recensés hier et les récentes manifestations après la mort de George Floyd, la fête de l'indépendance se déroulait dans un contexte tendu. Des cérémonies ont été annulées ou revues à la baisse. À Washington, les traditionnels feux d'artifice ont quand même été tirés et à la Maison-Blanche, Donald Trump en a profité pour prononcer un discours aux accents très politiques. Dans la capitale fédérale américaine, Gregory Phillips.
C'est la deuxième année que Donald Trump organise un hommage à l'Amérique, un peu inspiré du 14 juillet français. Mais depuis la pelouse sud de la Maison-Blanche, le discours est fort peu rassembleur. Nous allons vaincre ces gauchistes radicaux, dit Trump, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs et les émeutiers. À cause de l'épidémie de coronavirus, le nombre d'invités à la Maison-Blanche a été réduit. Mais Trump assure que l'économie va rebondir très vite. Notre pays est en grande forme. L'année prochaine sera l'une des meilleures. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et maintenant, place au défilé aérien. Mais alors que les Américains célèbrent leur 244 années d'indépendance et de liberté, le pays paraît plus divisé que jamais. C'est tourmenté, Très moche, ce qui se passe en ce moment, dit Becky, venue de Pennsylvanie. J'espère qu'on aura bientôt un nouveau président qui saura nous réunir. Mais Brad, californien et républicain, dit que Trump gagnera le 3 novembre, porté, dit-il, par des millions d'Américains, qu'il appelle la majorité silencieuse. Les élections présidentielles et parlementaires sont dans 121 jours, un peu moins de 4 mois. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est également ces 200 000 personnes privées de déplacement en Catalogne, dans la région de Lérida. Une zone a été bouclée en raison d'une multiplication des cas de coronavirus. Zone dans laquelle les regroupements de plus de 10 personnes sont également interdits. Le navire humanitaire Ocean Viking attend toujours un port pour débarquer 180 migrants récemment secourus en mer Méditerranée. Sans réponse de l'Italie et de Malte, le bateau stagne dans les eaux internationales. À bord, l'ONG SOS Méditerranée évoque des bagarres et des tentatives de suicide. Un peu d'espoir hier avec la venue d'un médecin italien. Mais la situation reste très tendue. Mathilde Dehimi.
Ces derniers jours, l'équipage de l'Océan Viking a dû renforcer ses veilles de nuit par rotation de 4 heures. Laurence Bondard, porte-parole de SOS Méditerranée à bord.
Toute l'équipe est sur le pont jour et nuit. Ça n'est plus uniquement pour aider. Malheureusement, c'est aussi pour assurer la sécurité à bord. On s'inquiète en permanence. On a peur que quelque chose se produise à tout moment. On ne peut pas garantir qu'à tout moment, un acte désespéré se produise et qu'on ne pourra pas cette fois empêcher. Une situation peut passer du calme à la tension extrême en une fraction de seconde.
Deux migrants ont pu être repêchés après avoir sauté à l'eau. S'ils sont tentés de mettre fin à leur jour et menacent de recommencer, il y a aussi des bagarres. L'attente sans perspective pèse particulièrement pour une quarantaine de migrants en détresse psychologique et certains se méfient même des humanitaires. Laurence Bondard.
Un des éléments qui peut expliquer ça, c'est les protocoles Covid qui fait qu'on est masqué, on a des lunettes, on a des surblouses. Donc le contact humain est forcément beaucoup plus compliqué, ils ne nous voient pas sourire, on ne doit pas s'approcher d'eux. Donc il y a effectivement une relation interpersonnelle qui est plus complexe et on essaye d'y pallier comme on peut, mais forcément il y a des limites à ça.
Le stress se propage vite sur le bateau, dit-elle. Les migrants nous disent leur peur après ce qu'ils ont vécu en Libye et en mer, leur peur aussi de ce qui va désormais leur arriver.
Mathilde Dehimi.
Ils ont eu peur qu'elle n'ait pas lieu cette année, mais les forains ont bien investi les Tuileries à Paris hier.
Avec 2 semaines de retard et des mesures de sécurité, les manèges et les machines à barbe à papa sont en place, même si les forains ne sont pas autorisés à accueillir plus de 5000 personnes sur le site. Ils sont soulagés de retrouver les clients après 3 mois sans activité. Reportage signé Thibault Lefebvre.
Les derniers coups de marteau pour remonter des manèges restés au garage pendant plus de 3 mois.
Il y a des monstres, il y a des cercueils, il y a le fantôme à la sortie avec la tronçonneuse. Il y a tout ce qu'il faut.
Jean-Charles Maury gère depuis des années le train fantôme de la fête des Tuileries.
C'est un soulagement. Une fête foraine qui rouvre, c'est bien. On a eu chaud, hein. on a su qu'on pouvait ouvrir aux Tuileries 15 jours avant. C'était moi une.
Jean-Charles peut compter exceptionnellement sur l'aide de son cousin Julien. Lui aussi possède un train fantôme qui en temps normal est monté pour la fête des loges de Saint-Germain-en-Laye. Mais cette année, comme la foire du trône, l'événement a été annulé.
Je suis au bord de la faillite, au bord du dépôt de bilan. Tout rouvre, tous les parcs d'attractions, les cinémas. Hein. Et nous, la fête foraine n'a pas le droit d'ouvrir. Quand vous voyez tout le monde rouvrir et que vous, vous n'avez pas le droit d'exploiter, là, c'est quand même plus pareil, quoi. On est pénalisé, hein. Je comprends pas que je puisse pas exploiter. Je sais même pas comment je vais faire pour repartir et remettre du gasoil dans les camions.
La foire du trône et la fête des loges représentent environ 80% du chiffre d'affaires de Julien Maury. Il attend la foire de Lille à la fin de l'été, puis celle de Rouen pour essayer de sauver son année.
Voilà, c'est dimanche, vous irez peut-être faire un tour. Si vous êtes à Paris à la fête des Tuileries, vous pourrez également suivre une course de Formule 1, la première de la saison, ça se passe en Autriche. Sur le circuit de Spielberg, ce sont les 2 Mercedes qui s'élanceront en première ligne. Lewis Hamilton en 2e position. C'est son coéquipier finlandais Valtteri Bottas qui sera en pole, comme on dit.
Merci pour toutes ces précisions, Raphaël Delvolvé.